20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
L'actualité faite de Jour J, on vous les raconte chaque soir sur l'antenne d'RTL. Et ce soir, justement, enquête au pays des médecines alternatives et complémentaires. Merci d'être fidèle à Jour J, que vous écoutez sur RTL ou en podcast.
Homéopathie, naturopathie, acupuncture ou encore sophrologie, bienvenue dans le cabinet de Nathalie et Mélanie qui ont décidé de proposer une alternative à la médecine traditionnelle.
C'est vrai que j'ai l'impression de me sentir mieux là.
Voilà, c'est normal.
Par contre, ils sont plus ma bouche.
Ah oui, ça par contre, c'est les orties, monsieur.
Disons que c'était après un voyage en Thaïlande qu'avec Mel, on a découvert une nouvelle approche de la médecine, ça c'est sûr. C'est extrêmement spirituel.
Exactement, c'était après une énorme gueule de bois, une full moon party, qu'un gentil monsieur est venu nous masser les mains avec de l'huile d'orchidée.
Ah oui.
Et là,
plus rien. Plus rien, envolé. Alors que 2 heures avant, on a pris des doliprane, que dalle.
Si le palmachot s'en amuse, les Français ont succombé aux propositions de ce que l'on appelle les médecines alternatives. Ostéopathie, jeûne, réflexologie, acupuncture et j'en passe évidemment. Mais tiennent-elles vraiment leurs promesses? Peuvent-elles être dangereuses? Pourquoi certaines d'entre elles sont-elles considérées comme des antichambres sectaires? Nos invités ont mené l'enquête.
RTL, Jour J.
Alexandra Delbo et Florian Gouthière, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous deux en cœur d'être nos invités. Vous êtes tous deux journalistes scientifiques et vous êtes les auteurs d'un livre qui a paru aujourd'hui, Médecines alternatives et complémentaires, qu'est-ce qui marche aux éditions Les Arènes. Qui commence pour me dire ce qui a motivé cette étude? Allez, on commence avec les dames. Alexandra, c'est
moi
pour
qui
vous.
Me lance. Mais c'est justement de pouvoir faire un guide qui n'existait pas, c'est-à-dire de se dire, on a tous et toutes, en fait, autour de cette table, même dans ce studio, eu recours au MAC, on l'a déjà pratiqué au moins une fois dans sa vie.
Les MAC, ce sont les médecines alternatives et complémentaires.
Exactement, c'est le terme qu'on a utilisé. Et c'est se dire qu'il y en a partout, en fait, on y est tous confrontés, on a tous déjà eu recours à ça. Et c'était de se dire, comment est-ce qu'on peut s'y retrouver? Est-ce que tout est équivalent? Comment tout est pratique? Et est-ce que ça a montré une certaine efficacité, voire certains dangers?
Florian, vous parlez même d'une jungle, c'est-à-dire qu'on ne s'y retrouve pas finalement dans ces fameuses MAC?
Il y a une offre qui est vraiment pléthorique. Nous, en amont du livre, on avait recensé 400 médecines alternatives et complémentaires. Alors, on ne les a pas toutes traitées, on a traité celles qui avaient pignon sur rue en France, et qui étaient les plus pratiquées. Mais dans le tas, effectivement... Quand on va voir un ostéopathe, on n'a pas l'impression d'aller voir quelqu'un qui pratique une médecine alternative. Dans le même immeuble, il y a une plaque pour un géobiologue. Dans le même immeuble, il y a une... Et que faire? Que faire face à ça? On se dit, bah, s'ils ont pignon sur rue, c'est que ça doit être autorisé, c'est que ça doit être encadré. Ils ont une plaque, certains s'amusent même à mettre un petit caducé sur leur voiture, comme s'ils étaient des médecins. Donc voilà, pour se repérer là-dedans, c'est pas facile.
Alexandra,
il y a un nouvel élément un petit peu récent, c'est les mutuelles aussi qui remboursent en fait certaines de ces MAC. Et donc entre ça, Doctolib qui a supprimé une bonne partie, mais on se pose la question de si je trouve ça dans ma salle de sport et que c'est remboursé par ma mutuelle, est-ce que c'est sûr et est-ce que c'est efficace?
Qu'est-ce qu'ils disent les chiffres en fait sur les consultations en France? Est-ce qu'on assiste à un boom depuis quelques années, Alexandra?
Alors c'est très difficile en fait de se rendre compte justement de ça parce que il y a pas vraiment beaucoup de chiffres. Il y a des sondages qui laissent entendre que tout le monde l'a déjà pratiqué. C'est ce qu'on peut faire un petit peu autour de nous quand on pose la question à un repas de famille, mais sinon on peut pas vraiment savoir et les pratiques sont tellement disparates que c'est difficile même de retrouver le nombre de praticiens de chaque MAC.
Enfin, si vous vous y intéressez et si vous avez décidé aussi de mener l'enquête, c'est, je l'imagine bien, Florian, parce que depuis peut-être une décennie et peut-être aussi l'épidémie de Covid a changé la donne, les Français aujourd'hui effectivement poussent ces fameuses portes qui ont pignon sur rue.
Alors,
ça répond à une demande tout ça, et puis je pense que les réseaux sociaux ont dû aussi augmenter la promotion de ces pratiques.
Aujourd'hui, on est aussi confronté au fait que trouver un médecin est pas toujours facile.
Oui, une décertification médicale.
Quand on a un problème de dos, prendre rendez-vous auprès d'un kiné, ça peut être très compliqué. Alors qu'à côté de ça,
un ostéopathe
n'a pas besoin de rendez-vous. Il n'y a pas besoin d'avoir une ordonnance. Et donc, il y a vraiment cette offre parallèle de soins qui explose au fur et à mesure que, il y a une désertification médicale.
Et puis, pourquoi est-ce que les Français pourraient aussi aussi avoir délaissé la médecine conventionnelle traditionnelle pour ces pratiques-là. On a plus confiance, Alexandra, finalement, dans nos médecins?
Je pense justement il y a une question de se ressaisir de sa santé, c'est-à-dire devenir à nouveau acteur et actrice de comment je me soigne, de casser un petit peu cette relation très asymétrique qu'on a pu connaître entre médecin et soigné,
le sachant et le soigné,
voilà, et le patient. Et donc du coup se pose la question de qu'est-ce que je peux faire moi pour me sentir mieux. Et c'est là où on touche un petit peu du doigt la question du bien-être, du mieux-être, et qui touche le soin. Et c'est une question qui se pose aussi pour les patients atteints de maladies chroniques, qui sont en errance médicale, qui ne trouvent pas en fait de réponse, que ce soit par les déserts médicaux ou simplement parce qu'ils ne trouvent pas les réponses en fait à côté de chez eux.
Et on se dit dans ces moments-là, pourquoi ne pas essayer, puisque de toute façon ça n'est pas dangereux. Et justement, il existe en France une organisation gouvernementale et interministérielle qui scrute les dérives sectaires, c'est la Milvilude. Qu'est-ce qu'elle a remarqué, Florian ?
Elle a remarqué, à période du Covid, qu'il y avait plus 20% de saisines liées pour des dérives sectaires ou pour des suspicions de dérives sectaires liées aux pratiques de soins. On voit que plus ça fleurit, plus les problèmes fleurissent aussi. Il y a un dernier élément dont on n'a pas parlé, c'est que quand on il y a une grande mode de la reconversion professionnelle pour devenir thérapeute. Ça, quand on prend le métro, on voit des affiches qui vous proposent de devenir praticien de santé. C'est pratique, hein. On peut avoir le statut de soignant sans faire toutes ces études de médecine, en quelques stages. Et donc voilà, on a d'un côté une population qui veut se ressaisir de ses soins, comme disait Alexandra, et de l'autre côté des gens qui proposent de plus en plus et qui peuvent se former à moindre coût, mais
oui, parce que ça peut coûter cher. Mais on a toute une heure justement pour en parler, et puis on va en parler aussi en détail. Mais je voudrais quand même qu'on revienne sur les phénomènes sectaires, hein, parce que ça c'est quelque chose aussi qui est dans la tendance d'une société qui aujourd'hui peut être désorientée, et certaines pratiques justement proposent une sorte de recentrage, et pas simplement un recentrage sur sa santé, mais un recentrage aussi sur l'ensemble de son existence, et c'est parfois là l'entrée dans les dérives sectaires.
Exactement, et il y a un enjeu sur les dérives sectaires, donc il y a ce phénomène de rupture où on peut rentrer dans une secte, donc c'est un phénomène qui est bien particulier, qui ne touche donc pas que le milieu de la santé. En revanche, ce qui touche particulièrement le milieu de la santé, c'est le fait d'avoir des pertes de chance et des retards de soins. Et ça, c'est essentiel, et ça fait partie en fait des dérives sectaires, c'est de dire si un consultant de MAC vous demande d'arrêter votre traitement. Et c'est ce phénomène-là, en fait, qui est le risque majeur de n'importe quel MAC, c'est de dire, je vais plus prendre mon traitement, je l'arrête, je le retarde, et donc du coup, je peux avoir donc des séquelles de ce manque de traitement, voire ça peut conduire jusqu'au décès.
Alors, on a une heure pour en parler, on va rentrer dans le détail de certaines pratiques, on va quand même préciser que ceux qui pratiquent aussi ces médecines alternatives et complémentaires ne sont pas tous des dangereux, il faut le dire, ni des gourous. Il en est aussi qui font leur travail en disant, attention, on n'est pas là pour remplacer la médecine conventionnelle traditionnelle, on est là aussi en complément. Voilà, il y en a certains qui font très bien leur boulot et d'autres pas. Mais on va rentrer de toute façon dans le détail avec vous et faire un point sur l'enquête que vous avez menée. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Georgie. Jusqu'à 21h, Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
Alexandra Delbo et Florian Gouttière sont nos invités ce soir. Ils sont tous deux journalistes scientifiques et apparu aujourd'hui aux éditions Les Arènes leur enquête médecines alternatives et complémentaires. Qu'est-ce qui marche? Ils ont fait le point justement sur toutes ces médecines que les Français, enfin d'ailleurs j'emploie le mot médecine, on va revenir sur cette terminologie, toutes ces pratiques plutôt je dirais que les Français adorent visiblement. En tout cas il y a un Français sur trois qui préfèrent les médecines alternatives et complémentaires à la médecine conventionnelle. Alors, entendez par là des pratiques telles que l'acupuncture, le MDR, l'éthiopathie, la naturopathie, l'homéopathie, l'hypnose, le jeûne dont on va parler dans un instant, la médecine ayurvédique, la balnéothérapie, bref, et j'en passe, il en existe à peu près 400 et vous en avez recensé 26 dans votre ouvrage. Avant de rentrer dans le détail justement de vos travaux, revenons sur ce terme médecine. Est-ce que c'est vraiment approprié? Parce que vous parlez des MAC, médecine alternative et complémentaire, mais Alexandra, est-ce que c'est approprié comme terme?
C'est connu sous ce nom-là. Donc d'accord. Déjà, quand parce on parle
ça,
de médecine alternative, se pose la question de comment est-ce qu'on les appelle autour de nous. Il y a souvent médecine parallèle, médecine alternative, médecine complémentaire, médecine douce parfois. Donc forcément, se pose la question de se dire, est-ce que ça relève de la médecine et donc du champ de ce qui a pu montrer efficacité ou pas. Même ça, c'est pas tout à fait en fait net dans ce registre-là. Donc il y a un terme qui est pratique de soins non conventionnels. C'est ce qui est souhaité par l'ordre des médecins. C'est ce qui est, on va dire, le plus clair et c'est aussi ce qui est le moins vendeur. Donc il n'est pas du tout utilisé en fait pour faire référence à ça. Donc c'est aussi par un souci de se faire comprendre qu'il fallait choisir ce terme-là et qui englobe en fait ce qu'on connaît en fait de.
Est-ce que vous-même vous avez accordé votre confiance, Florian, à certaines pratiques que vous avez ensuite étudiées?
Dans ma jeunesse.
Ah bah je ne sais pas, là-bas, vous n'êtes pas si vieux que ça non plus, quoi.
Pas tout jeune non plus.
Ouais.
Je pense que comme beaucoup de gens, ma grand-mère me donnait de l'homéopathie pour que je dorme mieux.
Ouais.
Je pense que je suis passé par de la phytothérapie.
Ouais.
L'hypnose, je suis passé par là, je suis passé par plein de
D'accord.
Comme ça.
Et est-ce que vous vous étiez dit, bah tiens, il y a certaines de ces pratiques qui ont fonctionné sur moi?
Avec comme tous ceux qui passent D'accord. par un praticien, on a l'impression, ma grand-mère me donnait des granules ouais. homéopathiques. Alors, il se trouve que a posteriori, elle s'est dit, par contre, je me suis trompée, c'est pas les bonnes, mais ça avait quand même fonctionné.
D'accord.
Ça a d'ailleurs été la première graine de doute. C'est que si des granules qui sont pas du tout censées faire ça ont cet effet-là, c'est peut-être quelque chose.
C'est comme ça que vous êtes devenu journaliste scientifique et comme quoi, vous voyez, ça tient parfois ça aussi tient à deux granulés d'homéopathie. Voilà. Donc, comme quoi, ça marche quand même quelque
chose
part.
Qui marche, en fait.
Exactement. Non, pourquoi je vous pose la question? C'est qu'à titre personnel et en faisant le tour aussi dans la rédaction effectivement de Jour J, on s'est tous allongés chez l'ostéo, on a tous soigné les bobos de nos enfants à l'homéopathie, on a tous tenté d'arrêter de fumer avec l'acupuncture, on n'a pas encore essayé l'urinothérapie qui consiste à boire son urine, on y reviendra, mais d'ailleurs on va faire un tirage au sort et le premier qui se plante dans l'équipe devra boire donc son urine au petit déjeuner. Bref, tout ça pour dire que nous on s'est prêté déjà volontiers à certaines de ces pratiques et avec succès, Alexandra. Or, on va rentrer dans le détail, mais quand on lit votre livre, on a l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, quoi.
Alors, il n'y a pas rien qui fonctionne.
Non, c'est vraiment, pas vrai, j'exagère.
On va y rentrer.
Évidemment,
on va y rentrer
je manque de nuances, mais c'est volontaire.
Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que ça veut dire, ça marche.
Exactement.
Et ça marche pour moi. C'est toute la question, en fait, qu'il faut se poser. Par rapport à ça, il faut se rendre compte que quand on parle d'efficacité par rapport à des études scientifiques et donc en comparaison avec quelque chose. Ça, c'est un premier point. Quand vous allez chez l'ostéopathe et que vous vous sentez mieux après...
Ce qui est mon cas. Par exemple, moi, je suis une grande fan de l'ostéopathie.
Mais on va rentrer dans l'ostéopathie, mais l'ostéopathie, du coup, a autant d'effets que la masso-kinésithérapie, en fait,
D'accord.
pour certains domaines, notamment des douleurs lombaires. Je ne sais pas si c'est pour ça que vous y allez. Mais c'est un peu l'idée de se dire, dans tout ça, pour s'y retrouver, ça marche, ça peut pas dire grand-chose, en fait. Ça veut dire ça marche par rapport à quoi, par rapport à qui, tout en retenant qu'il n'y a jamais de mal à se faire du bien, du moment que ça ne fait pas plus de mal que de bien. Et c'est vraiment un peu tout l'enjeu autour de ces mecs-là.
Mais votre étude, en fait, c'est une étude scientifique sur des résultats scientifiques, mais le mental, il joue un rôle considérable dans le soin.
Alors, ouais, on parlait de ce que signifie ça marche. On parle souvent d'effet placebo et c'est souvent quelque chose qui est très mal compris, l'effet placebo. L'exemple que je donnais tout à l'heure, je pourrais en prendre un autre. Si vous avez un problème quelconque, mal à la tête, je vous donne un comprimé, vous allez mieux après. Vous allez dire, j'ai pris ce médicament et après je vais mieux. Donc ça doit être à cause de ça. Si je vous révèle que cette gélule est vide, là vous commencez à vous poser des questions. Là, vous dites, mais là c'est un effet magique de mon mental. Alors c'est la plupart du temps, la composante principale de ce qu'on appelle l'effet placebo, juste le temps qui passe, le mal qui décroît naturellement. Après, il y a un autre facteur qui peut rentrer en ligne de compte, il va être le fait de se détendre parce qu'on est pris en charge, le fait vraiment de se relaxer, le fait de moduler son stress, va avoir un effet concret sur plein de maladies, des maladies digestives, enfin des troubles digestifs, certains troubles dermatologiques. Voilà, cette modulation du stress a cet effet concret. Mais c'est pas ça marche sur des choses très précises, très ponctuelles. Néanmoins, ma gélule a toujours été vide.
Alexandra,
un exemple justement avec un médicament, cette fois on sort des Mac. Si vous avez mal à la tête et que vous prenez un Doliprane, que ça agit au bout de moins de 5 minutes, c'est pas le Doliprane.
D'accord.
Voilà.
Ce n'est pas possible
en fait. Ce n'est pas possible que ce soit métabolisé et que ça atteint en fait votre centre antidouleur. C'est un peu l'idée.
Donc ce que vous nous expliquez, c'est que parfois on ressent même les bienfaits d'un médicament
Exactement.
Bien avant même qu'il ne fasse son effet et que effectivement il peut y avoir d'autres facteurs qui favorisent finalement une forme de guérison, en tout cas un mieux-être. C'est ça que vous nous expliquez, qui n'a rien à voir avec la pratique en elle-même.
Exactement, on va mieux après, mais ça ne veut pas dire qu'on va mieux grâce à.
Bon, en tout cas, moi, je ne lâche pas sur l'ostéopathie, et d'ailleurs, j'adore l'ostéopathie comme bon nombre des Français, on y reviendra dans un instant, on va parler du jeûne, on va parler de la détox, qui quand même font un carton, tout le monde en parle en ce moment, on va parler de l'homéopathie, et puis vous allez nous donner le fruit de votre enquête. Voilà, à tout de suite sur RTL.
RTL, jour J, avec Flavie Flamand. RTL, jour J, avec Flavie Flamand.
C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une expérience que je suis en train de pratiquer en ce moment. Je voudrais vous parler du jeûne. J'ai bien entamé mon troisième jour de jeûne sec. Alors, qu'est-ce que c'est le jeûne sec ? Eh ben, on ne mange pas et on ne boit pas. Alors, je verrai demain si je vais boire ou pas, mais en tout cas, je vous tiendrai informé de l'évolution de ce jeûne. Parce que franchement, je trouve ça vraiment formidable. Je suis super contente. C'est du fastoche, du bonheur et de la détox. Allez, je vous dis à demain.
Sur les réseaux sociaux, il est une pratique qui cartonne. C'est donc le jeûne qui se présente sous plein de formes différentes. Alors, je ne sais pas si je dis jeûne ou jeûne. Donc, je vais dire le jeûne maintenant, le jeûne sec, le jeûne hydraulique, le jeûne intermittent. À écouter ceux qui le promeuvent, c'est fastoche et c'est détox. Mais qu'en pensent nos invités, justement, Alexandra Delbo et Florian Gouttière, qui ont mené une enquête qui sort aujourd'hui aux éditions Les Arènes? Ce sont les questions que l'on va leur poser. Selon l'IFOP, un Français sur six a déclaré, donc en 2022, avoir déjà pratiqué le jeûne pour améliorer sa santé. Ça veut dire quoi, améliorer sa santé, Florian ? Ça veut dire perdre du poids ? Ça veut dire éliminer ses toxines ? On ne fait pas un jeûne pour les mêmes, toujours pour les mêmes raisons.
Ça veut dire à peu près tout. C'est pour ça que ce sondage englobe énormément de pratiques. C'est très difficile de savoir pourquoi les Français jeûnent. On constate juste que quand on les interroge, ils disent oui, j'ai déjà fait ça, mais est-ce qu'on englobe là-dedans un régime un peu drastique?
Mais est-ce que c'est bien ça alors? Parce qu'on nous propose plein de jeûnes, ça vient d'où le jeûne? C'est ancestral, non?
Alors, on le retrouve dans plein de religions, c'est des préconisations qui existent. Nous, la question qu'on s'est vraiment posée, c'est est-ce que ça a un effet curatif? Est-ce que ça a un effet préventif? On en entend beaucoup parler pour les malades du cancer. Les malades du cancer se font promouvoir par divers thérapeutes. L'arrêt de la consommation de nourriture plus ou moins prolongée, c'est censé avoir des bienfaits. Alors, il y a quelques petites études sur l'animal qui suggèrent éventuellement peut-être. Sur l'homme, on n'a rien. Il n'y a aucune preuve de ça. Au contraire, on a plutôt le constat que ça va chez des personnes qui suivent des traitements contre le cancer par ailleurs, que ça va aggraver leurs symptômes. Donc c'est pas du tout conseillé. Et à chaque fois, pour toutes les pratiques, on essaie de voir est-ce que vraiment ça a été évalué. Alors très peu. Et est-ce qu'il y a des bénéfices? Aucun n'est identifié aujourd'hui, objectivé en tout cas.
D'accord, mais alors il y a quand même une différence entre une personne qui a un cancer par exemple et à qui on va dire vous stoppez toute alimentation, vous stoppez le sel, vous allez faire du jeûne et qui effectivement subit des traitements contre le cancer, et une personne qui tout à coup se dit ah bah tiens je vais me faire un summer body, je pars 5 jours en Bretagne ou ailleurs faire une marche, faire un jeûne sec, c'est-à-dire je bois pas, je mange pas pendant 5 jours, ça va me coûter beaucoup d'argent et je vais rentrer, je vais me sentir tellement mieux. Il y a une vraie différence. Est-ce que ça peut être dangereux, le jeûne ?
En termes de perte de poids, ça va probablement avoir une certaine efficacité. En termes de reprise de poids, comme à peu près tous les régimes, ça va revenir derrière.
Mais est-ce que ça fait du bien à l'organisme, par exemple ? Est-ce que ça élimine les toxines ?
Alors, les toxines. Je vais laisser parler Alexandra, qui s'est passionnée.
Alexandra, c'est sa spécialité, les toxines.
La détox, justement, la détox. En fait, la détox, ça part d'une idée biologiquement intuitive de se dire on est encrassé, on a des polluants tout autour de nous, on prend des médicaments, on a une vie qui n'est pas forcément saine, comment est-ce que je peux un peu purifier et drainer mes organes qui pourraient être encrassés? En réalité, ça n'a pas de fondement biologique, c'est-à-dire que les organes ne s'encrassent pas parce que c'est leur rôle en fait d'éliminer tout ça. On a un foie, on a des reins qui justement éliminent tous ces toxiques. La seule chose qui peut vraiment exister et qui nécessite une détox, ce sont par exemple les métaux lourds. Et ça, c'est un...
Alors
c'est
les métaux lourds que l'on retrouve dans certains poissons...
Dans certains poissons, mais à des taux qui seront beaucoup beaucoup plus bas. Là, quand on parle d'intoxication métaux lourds, c'est plutôt le saturnisme avec les peintures au plomb, par exemple, avec des enfants qui auraient léché, par exemple, des écailles de peinture. Donc, c'est des cas qui sont très particuliers. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment de fondement biologique au fait de détoxifier. Et on ne pourrait pas vraiment le faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de moyens. Il faudrait aller chercher cette molécule pour l'enlever du corps. Et en fait, il n'y a pas vraiment de molécule qui s'encrasse à ce niveau-là.
Donc, la détox, en fait, ne sert à rien. En fait, ce qu'on nous présente comme une détox.
Ne sert à rien.
D'accord. Non. Et donc, le but, parce que on parlait du jeûne et de la détox, mais c'est pas forcément la même chose.
Parfois, le jeûne a la prétention de détoxifier.
D'accord.
Vous regardez dans la littérature médicale, le mot toxine, ça va avoir du sens quand on parle des champignons, des produits toxiques dans les champignons, mais la toxine, au sens où l'entendent les promoteurs de la détox, ça n'existe pas. D'accord. Ça n'a pas de sens du tout.
Donc, le jeûne, c'est bidon, en fait. À moins que je veuille perdre du poids, vous me dites, hein, oui, effectivement, en 5 jours, vous allez peut-être perdre 2 kilos parce que vous n'aurez pas bu, pas mangé, mais vous les reprendrez quoi qu'il arrive, mais ça n'est pas dangereux pour ma santé, pour autant. Ou est-ce que ça peut être dangereux de jeûner? Et là, je ne parle pas des personnes malades d'un cancer, hein, attention, hein, qui abandonnent leur traitement. Est-ce que ça peut être dangereux, le jeûne?
Ben oui.
Ça peut être dangereux. On entendait dans l'extrait sonore, justement, une personne qui a arrêté de boire et manger, et on sait que arrêter de boire, ça va en plus réduire drastiquement, en fait, son apport hydrique, ça peut être dangereux en fait assez rapidement. La question, c'est un peu de se dire que c'est un peu le vent en poupe. On en voit beaucoup sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de vidéos de youtubeurs. Il y a aussi la question de la naturopathie qui peut être liée dans certains cas très particuliers en fait à des cas de jeunes. Je pense à Thierry Casanova justement et ses poursuites judiciaires. Donc c'est de se dire
ceux qui ne connaissent pas Thierry Casanova, donc c'est un youtubeur qui a été poursuivi, naturopathe qui a été poursuivi effectivement pour
abus de faiblesse. Il y a à peu près 26 chefs d'accusation je crois, et qui est encore poursuivi maintenant. Mais c'est de se dire aussi comment est-ce qu'on fait ça, et est-ce qu'on fait ça seul chez soi un jour post-fête, en se disant on a trop mangé, on a trop bu, le 1er janvier je ne mange pas, je ne bois pas. Bon, buvez déjà d'un côté, buvez de l'eau, c'est toujours mieux. Si vous ne mangez pas le 1er janvier, il n'y aura pas de risque.
D'accord, ok. Un lendemain de bringue, d'accord, voilà. mais c'est pas la même chose que partir 6 jours
mais
dans
le mot abus de faiblesse est extrêmement important. C'est que on parle d'une pratique qui affaiblit le corps, qui affaiblit le corps et l'esprit. Et donc c'est dans ces situations-là où l'organisateur peut avoir une emprise peut-être un peu plus grande, peut profiter de cette faiblesse. Donc les risques, ils sont pas forcément pour le corps, ils sont aussi pour la vie sociale, pour ce qui va s'en suivre.
L'homéopathie, Oriane, là, qui réalise cette émission, elle nous a sorti tout à l'heure son petit tube d'arnica, c'est bidon l'homéopathie?
L'homéopathie n'a pas plus d'effet qu'un placebo. Elle se confond avec l'effet. Mais c'est toujours l'effet placebo, et on y revient en fait. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est de se dire ça a été évalué pour le coup. On parlera peut-être d'autres mains qui ont été moins évaluées, mais celle-ci elle a été évaluée. Il y a peut-être 150 études à peu près, 26 méta-analyses, donc études d'études, qui montrent qu'il n'y a pas plus d'effet qu'un placebo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans les cas où ça relève du bien-être, dans les cas où ça relève de ce qu'on appelle parfois un peu vulgairement la bobologie, en fait. Quand ça touche à ça, il y a pas de raison en fait de
s'en priver.
Exactement, de pas se faire du bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que il y a pas une volonté par le fait d'écrire ce livre d'interdire quoi que ce soit, de supprimer quoi
Mais
que ce soit.
Mais vous prévenez.
On prévient, et puis il y a un enjeu de réglementation des pratiques. L'homéopathie, c'était pratiqué par des médecins, en fait. Et ça enlève la possibilité d'avoir des graves pertes de chance et de retard de soins, parce que le médecin homéopathe switch, en fait, à un moment ou un autre, en cas grave, en fait. Ça pose quand même la question du statut du médecin par rapport à ces questions-là. Mais on va dire que c'était une pratique qui n'avait pas de risque structurel fort par rapport à d'autres MAC.
Allez, on se retrouve dans un instant, parce que moi, je veux parler des ostéopathes. Voilà, je sens qu'on n'abordera pas tous les sujets que l'on voulait. On va parler des ostéopathes, on va parler de l'hypnose, on va parler de l'acupuncture, on va parler de l'urinothérapie et du fait de pouvoir couper le feu. Bref, un gros programme ce soir dans Jour J.
Flavie Flamand sur RTL. Jour J. Jusqu'à 21h, Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Toujours
jour, en compagnie de nos invités Alexandra Delbo et Florian Gouttière. Ils ne sont pas médecins, mais ils s'intéressent aux médecines alternatives et complémentaires. Qu'est-ce qui marche? Voilà le titre de leur livre qui est apparu aujourd'hui aux éditions Les Arènes. Ils sont journalistes scientifiques et ils ont donc comparé. Comment vous avez travaillé, Alexandra? Vous avez comparé les études qui ont été faites? Vous avez
on a pris avec méthode chaque MAC.
Oui. Les MAC, pour ceux qui arriveraient.
Médecine alternative et complémentaire, les MAC. L'idée, c'était de prendre donc chacune de ces MAC et de regarder non pas seulement les études scientifiques, parce que c'est un point essentiel du livre, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi l'histoire. Oui. L'histoire est toujours super intéressante, en fait, sur les MAC. Oui. Peut-être quelques exemples sur le fait, par exemple, des médecines traditionnelles, de se dire ce sont des médecines ancestrales qui existent depuis toujours.
Mais on va en parler comme l'acupuncture.
L'acupuncture, mais alors je peux prendre un pas de côté dont on parlera peut-être pas après, c'est la médecine traditionnelle chinoise, de se dire ça fait des millénaires qu'elle est utilisée en fait. Pas du tout. En fait, c'est assez récent, ça date plutôt du siècle dernier, et ça a connu en fait un rebond assez récent, l'Ayurveda aussi. Donc du coup, dans l'histoire, il y a justement des faits qui sont assez intéressants. Ensuite, on s'est intéressé à comment ça se pratique, quels sont les fondements théoriques, et puis une séance type, pour essayer de voir justement comment ça se pratique un peu de manière globale, sachant que là, on avait quand même certaines difficultés à essayer de dresser en fait une séance type. Par exemple, pour une séance de naturopathie, c'est très difficile. Il y a 6000 naturopathes recensés en fait en France. Il y a peut-être 6000 séances types. Donc c'était un peu l'idée. Et ensuite, dernière partie, les études. Et puis surtout les risques. C'était de dire quels sont les risques, notamment de dérives sectaires, les risques par exemple d'intoxication médicamenteuse ou les risques de perte de chance. Par exemple, il y avait
Qu'est-ce que vous appelez les pertes de chance ?
C'est justement le fait de ralentir son traitement, de décaler son traitement. Il y a un exemple en fait, le seul en fait qu'on a trouvé sur l'homéopathie. On en parlait juste à présent, juste à l'instant, en disant que ce n'était pas dangereux. Il y avait un cas, c'est un enfant de 7 ans qui est décédé des suites d'une otite parce qu'il a été soigné par un médecin homéopathe italien qui n'a donc pas pris en charge cette pathologie comme il aurait dû. Il est décédé. Donc là, il y a un cas de risque très fort en fait qui existe exactement.
Ok, on va passer de l'homéopathie à l'ostéopathie. Ça, c'est un carton en fait. Hein. Il y a un très très grand nombre de Français qui ont succombé justement à la promesse de l'ostéopathie. J'en fais partie. Il y a énormément de praticiens en France, hein, Florian.
On estime qu'il y a 25 000 praticiens en France. On a la plus grande densité par habitant d'ostéopathes. C'est le gros carton.
Comment on l'explique ce carton?
Alors on peut l'expliquer parce que trouver un kiné n'est pas facile. Que les ostéopathes, sont très facilement disponibles, et je pense que ça joue énormément. Après, il y a une attitude, un comportement et des promesses aussi thérapeutiques qui font écho aux besoins des patients. C'est-à-dire que si je vais voir un kiné, c'est pour des problèmes de muscles, des problèmes
mécaniques.
Voilà, mécaniques. Les ostéos, il y en a quand même pas mal qui, au-delà de ça, vont vous proposer d'autres choses. Donc, si vous, au départ, vous y alliez juste pour des problèmes qui relèvent, on va dire, de la kinésithérapie, vous allez peut-être en revenir parce qu'ils vous ont promis d'autres choses. Et ça joue aussi.
Mais des promesses tenues ou pas tenues, par exemple? Parce que,
toute la question. C'est que.
Qu'est-ce qu'on peut me proposer en plus?
On peut vous proposer à peu près tout. C'est le point commun des médecines alternatives, c'est qu'elles se présentent vraiment comme des alternatives à la médecine.
D'accord.
Et c'est-à-dire qu'elle permet de guérir tout. C'est-à-dire que quand vous regardez sur le site du syndicat des ostéopathes, la liste est longue comme le bras des maladies que ça peut traiter, jusqu'à certaines formes d'infertilité. Enfin, on se dit, mais ça n'a plus rien à voir avec...
Mais comme dans toute pratique, il peut y avoir des charlatans, comme il peut y avoir effectivement des ostéopathes qui font super bien leur boulot et qui sont eux-mêmes très vigilants sur la façon dont ils peuvent pratiquer. C'est vrai que... Je ne sais plus ce que vous avez retenu là précisément de votre enquête, mais en tout cas moi mon ostéopathe, je peux vous assurer qu'il a changé ma vie, quoi. Enfin, c'est vraiment...
Il y a trois types d'ostéopathie, peut-être revenir à ça pour dresser un petit peu le portrait de ce que c'est. Il y a l'ostéopathie musculo-squelettique, celle qu'on connaît, peut-être que celle que vous pratiquez, c'est le fait d'avoir des mouvements, d'avoir des manipulations en fait du corps. Il y a l'ostéopathie viscérale, et donc là ça vise plutôt à
au niveau du ventre,
en place les organes. C'est l'idée générale. Là je dresse que les idées. Ensuite, il y a tout ce qui est ostéopathie crânio-sacrée, donc de la boîte crânienne. Mmh. Voilà, on a ces trois éléments. Pour ce qui est de l'efficacité propre par rapport à un placebo ou par rapport à d'autres traitements, il n'y a que l'ostéopathie musculo-squelettique qui montre un effet semblable à la masso-kinésithérapie. Mmh. Alors, c'est le seul.
Je vais préciser quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui relève de tout ce qu'un kiné pourrait vous proposer, un ostéo vous le propose.
D'accord, mais il ne le fera pas pareil.
Alors, on va rentrer là-dedans. C'est-à-dire que vous avez autant de pratiques de kiné que de kiné. Ouais. Vous pouvez tomber sur des kinés bien musclés qui ont fait du kiné du sport et des ostéos. Mais globalement, dans l'ostéopathie, il y a une pratique, tout un corpus qui relève de ce que propose le kiné, de ce que pourrait proposer un autre kiné, plus des pratiques spécifiques à l'ostéopathie, des gestes spécifiques à l'ostéopathie. Quand on mesure, quand on compare, les seuls qui ont un effet propre, qui ont un bénéfice, la mobilisation du bras, enfin se mettre en mouvement, etc., la kiné fait pareil. Tout ce qui est spécifique à l'ostéopathie, on n'a pas d'éléments de preuve d'efficacité. Il n'y a rien qui montre que c'est efficace en plus.
Enfin, bon, la méfiance peut-être, c'est un ostéopathe qui, effectivement, va nous promettre de soigner des maux qui ne sont pas, qui ne sont pas, qui relèvent plutôt d'une médecine traditionnelle, conventionnelle. C'est ça le danger.
C'est ça le danger.
Parce que se faire masser
On savait toujours du bien de se faire masser.
Bah oui,
c'est ça qui m'a
Oui, moi je trouve ça. Non, quoi qu'il arrive, enfin.
Il y a une dérive.
Je veux bien
importante.
Faire masser le sternum. Enfin, moi j'ai pas de problème avec ça, quoi.
Il y a une dérive importante sur laquelle il faut revenir, c'est les nourrissons. C'est la question de manipulation des nourrissons. Pour ça, il y a des recommandations qui sont très claires, c'est ne pas manipuler de nourrissons avant l'âge de 6 mois si c'est pas un pédiatre en fait. Et ça, on voit quand même dans notre entourage, moi j'ai des amis qui ont accouché il y a pas longtemps, c'est impossible même pour elles de ne pas aller chez l'ostéopathe pour remettre potentiellement un organe qui ne serait pas à la bonne place pour des problèmes de déglutition. Florent est jeune papa, donc je pense que c'est la même...
Il y a des injonctions permanentes à aller voir l'ostéopathe pour des choses qui... n'ont pas fait la preuve de l'efficacité. Ça va même plus loin, c'est-à-dire que les ostéopathes et d'autres praticiens en sont même à inventer des maladies comme le syndrome de Kiss. On en entend parler en tant que jeune parent. Ça n'a aucun sens. On vous dit votre enfant se courbe, il fait des crises, il pleure beaucoup. Vous faites la liste de tout ce qu'un nourrisson fait normalement. On va vous dire c'est lié à un problème au niveau de ses cervicales. Pour vérifier ça, pour poser ce diagnostic, faut faire des examens qu'on ne fait jamais à un nourrisson.
D'accord.
Donc comme on ne fait pas ces examens, ils vont faire des manipulations qui n'ont pas de sens pour une maladie qui n'existe pas.
D'accord.
Et c'est ce genre de dérive qu'on rencontre chez les ostéopathes.
Voilà, certaines dérives effectivement qui sont relevées dans votre livre. Mais néanmoins, je salue mon super ostéopathe qui fait super bien son taf. Voilà, on se retrouve dans un instant. Je voudrais qu'on parle de l'acupuncture, je voudrais qu'on parle des ventouses. Ça cartonne en ce moment sur les réseaux sociaux. On va parler de l'EMDR et de plein d'autres choses. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, jour J. RTL, jour J, avec Flavie Flamand.
La lumière fait un ménage pour désincruster. Qu'est-ce que ça fait du bien en profondeur, ce qui reste de tabac ou ce qui reste, voilà, de cette fumée de vapotage.
Ok, alors je viens de terminer la séance avec l'hypnotiseuse. Ça a duré environ 45 minutes. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai été très réceptive. J'ai vraiment ressenti des sensations physiques, des sensations de chaleur, de lourdeur, comme des coups de jus, des courants électriques.
L'hypnose est très souvent présentée comme une méthode pour arrêter de fumer. Les Français y ont-ils beaucoup recours à l'hypnose pour ça et pour d'autres mots, Alexandra Delbo?
Eh bien oui, beaucoup. Il y a beaucoup de recours à ça. Il y a différents types d'hypnose aussi. C'est ça qu'il faut voir. Il y a l'hypnose antalgique contre la douleur. Il y a l'hypnose.
Alors ça, pardonnez-moi, mais qui est vérifié. Enfin, on voit des images d'opérations.
En fait, ce qui est vérifié et ce qui est efficace, c'est parce que aussi c'est facile à mesurer. C'est-à-dire que pour mesurer le fait d'utiliser moins d'anesthésiant, par exemple, c'est facile. On regarde avec, sans, et justement, on regarde la dose qui a été prise. Donc ça, c'est presque le plus simple.
D'accord.
Quand on touche à tout ce qui est hypnothérapie avec un thérapeute, là, on entre dans quelque chose qui est difficile à mesurer parce que théoriquement, il faudrait avoir le même thérapeute et lui faire passer plein de patients pour avoir un contrôle le plus clair possible et le plus net possible. Donc du coup, là, il y a la relation entre soignant-soigné qui va jouer énormément. Et là, c'est plus difficile à voir. Pour ce qui est d'arrêter de fumer, par exemple, parce que c'est ce que je pense, ce qui intéresse beaucoup, les études montrent qu'il n'y a pas vraiment d'efficacité. C'est un peu l'enjeu. Pour l'instant, on n'a pas vu en fait d'effet avec les études. Il y en a quand même quelques-unes.
En fait, ce qu'on voit pour l'arrêt du tabac, c'est que l'un des prédicteurs de votre succès arrêté, ça va être essentiellement vos motivations initiales et la confiance que vous avez dans le praticien. C'est-à-dire que vous allez voir n'importe quel praticien en qui vous avez confiance, même un praticien, même si demain vous inventez une thérapie fantaisiste à mes fameuses gélules vides, si la personne a confiance en vous et qu'elle a des bonnes raisons d'arrêter de fumer, vous allez avoir un certain taux de succès. Et c'est ça le prédicteur. Il n'y a pas de différence entre aller voir un acupuncteur en étant persuadé qu'il va nous aider et qu'on a envie, d'aller voir un hypnothérapeute ou d'aller voir à peu près n'importe quel praticien de la gamme des médecines alternatives à cette fin.
Alors, la différence entre un hypnothérapeute et un acupuncteur, puisqu'on va glisser là progressivement vers l'acupuncture, c'est que moi, un hypnothérapeute peut me mettre dans... Enfin, j'adore ça en plus, je m'y prête, et effectivement, en tout cas, je ressens, je vous parle pas de l'efficacité, mais je ressens l'effet de l'hypnose.
Mais tout le monde, en fait, l'hypnose...
Alors moi, je connais des gens qui me disent que ça fonctionne pas sur eux.
Pour se rendre compte de ce qu'est l'hypnose...
Il faut être consentant, peut-être avoir l'esprit consentant pour l'expérience.
Il n'y a pas forcément cette idée-là. Par exemple, un exemple très simple de cet état de conscience modifiée, parce que c'est un état de conscience modifié, c'est de se dire, vous roulez en voiture, en scooter, en vélo, vous rentrez chez vous, vous avez oublié une partie du chemin.
Ouais, exactement.
C'est un état d'hypnose. Ouais. C'est cet état-là auquel on touche.
Qui rejoint un peu l'état méditatif. Un peu.
C'est un état entre les deux qu'il est difficile à caractériser, qui n'a pas forcément une onde cérébrale, parce qu'on est allé regarder un petit peu avec des IRM fonctionnels pour voir ce qui se passait dans le cerveau. Et il n'y a pas d'onde cérébrale spécifique de l'hypnose, donc c'est un peu un état à cheval entre plusieurs choses. Et cet état-là, vu qu'il n'est pas très bien défini encore, c'est difficile aussi d'aller toucher exactement quelles sont l'efficacité par rapport à ça.
Alors que l'acupuncture, pour le coup, ce sont des aiguilles que l'on va mettre, qu'on va nous mettre à certains endroits du corps. Et là, c'est une science que l'on ne ressent pas physiquement. Enfin,
c'est-à-dire qu'on ne ressent pas physiquement.
Vous me dites,
quand
moi,
on
l'hypnose,
vous pique.
Je vous dis, oui, non, mais d'accord, oui, ça me fait mal. Mais ce que je veux dire, c'est que autant l'hypnose, je me sens partir et donc je peux accorder spécifiquement, plus facilement peut-être ma confiance à cette pratique-là, que l'acupuncture où je vais être allongé sur un lit, on va me mettre des aiguilles en me disant que ça fonctionne. Est-ce que ça, par exemple, c'est une pratique ancestrale, l'acupuncture ?
Alors, ancestrale, on sait qu'elle a été pratiquée depuis très longtemps. Alors, on ne sait pas trop si elle a été pratiquée de la même façon au fil des siècles. Par contre, ce qu'on voit, c'est une pratique qui a disparu.
Mais ce n'est pas parce qu'elle a été dépopularisée.
On voit qu'elle était en train d'être déconsidérée à l'époque en Chine, et elle a retrouvé grâce sous Mao Tse-tung, parce qu'il y avait un besoin de médecins, il y avait le grand bond en avant, et qu'on n'en avait pas assez. Donc on a réhabilité énormément de pratiques en disant elles sont ancestrales, il y avait un petit côté promotion nationale aussi. Et donc c'est réapparu, il y a eu un grand retour en grâce, sauf que s'ils avaient disparu, il y a peut-être une bonne raison. Et on a mis longtemps en Occident à savoir comment les évaluer. C'est pas facile d'évaluer. On s'est dit, tout à l'heure on disait qu'il faut trouver le moyen de comparer de l'acupuncture à autre chose. Le placebo d'acupuncture, c'est quoi ? Il y a deux façons de comparer l'acupuncture à autre chose. Dans la théorie de l'acupuncture, il y a des méridiens sur lesquels circuleraient des énergies. Alors, technique 1, vous piquez ailleurs qu'à l'endroit où se trouvent ces fameux méridiens et vous voyez si les résultats sont les mêmes. Technique 2, ça a été inventé beaucoup plus récemment, il y a des aiguilles rétractables, vous avez l'impression qu'on vous pique juste à peine en surface, mais en fait on vous pique pas. Et là, comme ça, on peut comparer, est-ce qu'il y a un effet ou pas.
Et là ?
Alors, c'est là où c'est très intéressant.
C'est dans votre livre, mais...
C'est dans le livre. Pour à peu près tout, on ne voit pas d'efficacité.
D'accord.
Par contre, il y a quelque chose sur lequel il y a un effet de piquer. Alors, on peut piquer où on veut, mais... Donc il n'y a pas besoin d'appeler cette théorie des méridiens et des énergies. C'est pour tout ce qui va être les douleurs lombaires, des douleurs de dos. Et on a commencé à comprendre pourquoi. C'est que en piquant ces aiguilles, il y a une réaction inflammatoire locale. Il y a des substances qui sont sécrétées par l'organisme qui vont avoir un petit effet antalgique. Mais ça n'a rien à voir avec la théorie de l'acupuncture. Après, donc pour plein d'autres applications, plein d'autres sujets pour lesquels on verrait son acupuncteur, même les aiguilles rétractables font aussi bien, ce qui montre que l'effet va se jouer ailleurs, qui va être probablement dans la modulation du stress chez un praticien en qui on a confiance.
On va laisser nos auditeurs découvrir tout ça dans votre livre. Les ventouses, pardon, mais moi je me pose la question. Alors là, j'ai l'impression qu'on file à la cour du roi, là, des ventouses.
La ventouse, ça revient.
Mais ça revient en
2010,
force,
alors que c'était totalement tombé.
C'est quoi le principe de la ventouse ?
Désuétude. Je laisse Florian.
Alors, Florian, quand on se met des ventouses dans le dos,
c'est
censé aspirer les toxines ou
c'est censé faire pas mal de choses. Selon les praticiens, il y a des des allégations différentes, mais on est dans cette lignée des thérapies énergétiques aussi. Mmh. Là encore, on n'a aucun effet identifié.
D'accord.
Mais ça a eu de la popularité parce que beaucoup de sportifs se sont mis à faire ça. On a vu des nageurs avec ça dans le dos. Et donc les gens disent, ah si les sportifs le font, c'est que ça doit avoir un effet. C'est censé permettre de récupérer plus vite, etc. Mais quand on l'évalue, ça ne permet pas de récupérer plus vite.
Bon, on n'aura pas le temps de parler de l'EMDR, qui est une pratique qui recueille votre approbation sur le traitement, l'accompagnement. Voilà, moi je trouve que c'est une pratique extrêmement intéressante en ce qui concerne le post-traumatisme.
Et c'est pas notre approbation justement, et c'est plus important.
J'entends, l'approbation scientifique.
Justement, c'est parce qu'il y a eu pas mal d'études, et surtout parce qu'elles étaient dirigées contre une indication qui était très précise, le syndrome de stress post-traumatique chez l'adulte. Et en fait, en réduisant le nombre d'indications et justement l'évaluant de manière très précise, ça montre que justement, ça a une efficacité.
On va se retrouver dans un instant, place à l'urinothérapie, parce que ça a posé beaucoup de questions dans ce bureau, donc c'est bien, ça consiste à boire son pipi, et le crudivorisme qui consiste à manger tout cru. Voilà, à tout de suite.
RTL, jour J, avec Flavie Flamand. Jusqu'à 21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Nous n'aurons pas le temps de parler des coupeurs de feu, des magnétiseurs et autres qui sont dans votre ouvrage. Alexandra Delblo et Florian Gouttière, vous êtes toujours nos invités. Vous prendrez bien un petit verre.
C'est mon petit vin blanc à moi, en fait.
Comme des millions d'Allemands ou de Hollandais, Sigrid et sa fille ne jurent que par l'urinothérapie ou la Maroli. Voilà 12 ans qu'elles consomment quotidiennement leur propre urine, leur élixir de vie, comme elles l'appellent.
Ce que j'ai besoin, c'est juste un verre. C'est ma pharmacie, c'est mon produit de beauté. Je mets plus de crème de jour, je mets plus rien depuis longtemps, je mets de la Maroli, quoi. J'utilise plus de choses autres que ce que mon corps me donne.
Ça s'appelle l'urinothérapie. Est-ce que ça fait beaucoup d'adeptes en France? Mais pourquoi tout le monde se marre dans ce studio? Parce que personne, je pense, ici ne s'imagine, en tout cas, boire son urine le matin. Il y a beaucoup d'adeptes en France, Alexandra Delbo?
Combien on a de chiffres?
Non,
on n'a pas de chiffres.
Ça fait partie.
C'est très difficile d'avoir des chiffres pour pas mal de pratiquants des MAC en général.
D'accord.
Et là, ça recouvre.
Ouais.
Je crois qu'il y avait justement 6000 personnes dans une association en Chine qui étaient recensées. Ça donne une idée d'un endroit en particulier.
D'accord.
En France, c'est très difficile d'avoir.
Et puis du déclaratif aussi.
Oui,
c'est pas le genre de truc qu'on dit si facilement.
L'urinothérapie,
c'est quoi le principe en fait? Bon, à part le fait de boire son urine, on aura bien compris, c'est de ne se soigner. En fait, c'est un retour à l'envoyeur, à l'expéditeur,
je dirais justement. Ça.
Tu vis en circuit fermé, quoi, en fait. Hein, c'est un peu ça.
Exactement.
Je ne prends que ce que mon corps me donne, c'est ça?
Voilà. Et y a le président de la Société française de phrénologie en 2017 qui avait dit que ça ressemble plutôt à une auto-intoxication. C'est-à-dire que si vous êtes insuffisant rénal, c'est exactement ce qui se passerait de toujours réinjecter votre propre urine de votre organisme.
Voilà, faut expliquer le principe de l'urine. C'est que l'urine, en fait,
c'est les déchets qu'on évacue.
Voilà.
Donc si on les réingère, il a un petit souci. C'est vraiment de l'auto-intoxication. C'est comme si on faisait volontairement mal fonctionner ses reins. Et c'est tout le problème qui a été dénoncé par... Et c'est marrant, vous voyez, on parle d'une pratique... La plupart des gens qui vont la pratiquer croient que c'est ancestral, que ça remonte à l'Inde. Mmh. On a retrouvé la date dans laquelle ça a été inventé. 1916, c'est un praticien qui a lu dans la Bible une phrase qui lui a parlé dans les Proverbes. Et il a lu « Bois les eaux de ta propre fontaine, les eaux qui sortent de ton puits ». Alors c'était une métaphore pour la fidélité conjugale. Mais lui, il devait avoir très envie de boire son pipi. Parce qu'il s'est dit « Ah mais évidemment, si la Bible le dit, il faut que j'essaye ». À la limite, pourquoi pas, peut-être que ça peut être une inspiration, comme ça, peut y avoir des grandes idées qui viennent d'une inspiration, sauf que y a aucun bénéfice, encore une fois, à ça.
D'accord, et ça c'est scientifique, c'est dans votre
livre. Et donc c'est rigolo, c'est qu'après, les Indiens ont traduit le livre, et beaucoup de gens pensent que ça vient d'Inde, alors que c'est quelque chose qui a un siècle,
on méconnaît aussi, effectivement, l'origine des choses. Mais pas celle de notre pipi. Il y a ceux qui mangent cru aussi. le crudivorisme...
Alors, sous cuisson ou pas de cuisson, à moins de 42 degrés. Et l'idée, c'est de garder tous les nutriments qui existent, en fait, dans un aliment. On va dire qu'intuitivement, c'est pas idiot. Faut forcément manger des légumes frais, évidemment. La question, c'est de manger que ça, en fait. On risque d'avoir des carences. Et surtout, on risque d'avoir des problèmes de fibres, notamment, assez rapidement. Et puis, il y a pas mal de dérives sectaires associées au crudivorisme. Et c'est là où on touche un petit peu aux risques qui sont pas directement liés à la pratique, mais qui sont liés à la pratique telle qu'elle est pratiquée par exemple en France. Le crudivorisme, c'est notamment pratiqué dans des cercles un petit peu fermés sur YouTube. Il y a justement un risque d'entrer dans ce qu'on appelle une secte, ou en tout cas d'être enlevé un peu du chemin traditionnel du soin. Et il y a un risque autant pour les personnes qui portent des maladies pour essayer de s'en soigner, que pour les personnes qui sont saines.
Mmh. Comment est-ce que je peux faire? Alors, je ne vous parle pas, par exemple, des pratiques un peu extrêmes, hein, comme l'urinothérapie, ou, dont on peut dire effectivement qu'elles sont extrêmement marginales. Mais quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent, qui rencontrent des praticiens, qui font des promesses qui ne sont pas des promesses délirantes, et qui... Et en même temps, nous, en tant que patients, on a envie de les écouter, on a envie de tenter l'expérience. Et on se dit effectivement qu'on ne risque pas grand-chose finalement à tenter ça.
En fait, c'est quand ça soigne tout,
qu'est-ce qui doit nous alerter ?
Voilà. Quand ça soigne tout, il y a danger. Rien ne soigne tout. En fait, il y a pas une indication, même une spécialité médicale qui soigne tout. Il y a des médecins des reins, des médecins des poumons, des médecins du cœur. Il y a une raison en fait pour ça, c'est que on a une connaissance particulière et qu'il faut réorienter par rapport à ça. L'enjeu, c'est de se dire, est-ce que c'est du soin ou est-ce que c'est du bien-être ? Et il y a aussi cet enjeu-là. C'est de dire, et c'est aussi l'enjeu du livre, c'est pas de dire jeter tout à la poubelle, de toute façon on ne pourrait pas, il y aura pas d'enjeu d'interdire une marque, c'est pas possible, on pourrait parler de réglementation, mais c'est de se dire, faites-vous du bien tant que possible, mais faites attention quand vous voyez ces signes qu'on décrit en fait dans le livre, c'est perte de chance, on vous demande d'arrêter votre traitement que vous avez en cours, surtout
allopathique, voilà, c'est ça, on n'arrête jamais les médicaments.
Le dénigrement évidemment de la médecine traditionnelle, il faut ça toujours garder un contact avec son médecin. Faut faire quand même attention, c'est-à-dire qu'on dit oui, mais ça va, c'est pas alternatif, c'est complémentaire. C'est pas si simple que ça. Si on va voir, par exemple, on l'a évoqué tout à l'heure, des magnétiseurs, les gens qui font de la radiothérapie pour un cancer et qui vont voir un magnétiseur, on peut dire oh, il y a pas de mal à se faire du bien, après tout c'est de la relaxation. Sauf que même si la plupart sont persuadés qu'ils vont mieux, en réalité, quand on mesure, qu'on essaye d'objectiver, ce qu'on peut mesurer chez eux, ils sont beaucoup plus fatigués. Ça leur coûte de l'argent, ça fait des déplacements, ça n'a l'air de rien. On peut avoir l'air d'être satisfait. Mais en fait, il y a un deuxième problème qui va derrière.
Et dernier, voilà, deuxième, si ça ne vous dernier, dérange pas.
Ouais. C'est que voilà, tout ça peut sembler anodin parfois, mais ça peut créer des fausses représentations si on a une vision du corps humain, une vision qui fonctionne par énergie, etc. Qu'on a l'impression que des choses qui n'ont pas de sens en biologie fonctionnent sur nous. On va se dire, alors encore une fois, je vais pouvoir aller voir cette personne qui a une théorie différente, qui a eu l'air de fonctionner pour des choses anodines et qui va donc fonctionner pour des choses peut-être plus graves. Et c'est ça, c'est le jour où ça va être grave, à qui on a accordé notre confiance, à qui on va accorder notre confiance.
Ce sera le mot de la fin et j'invite nos auditeurs à découvrir votre livre Médecines alternatives et complémentaires, les fameuses MAC dont vous avez parlé ce soir. Qu'est-ce qui marche ? Ça vient de sortir aux éditions Les Arènes. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à toute l'équipe de Jour J, Céline Bonnet, Quentin Zoula, Bastien Robin et Oriane Omanette. Voilà. Merci pour votre fidélité. À lundi.